Bonne soirée sur France Inter, il est 20h. Les infos, Tristan Barraud, bonsoir.
Bonsoir. Un troisième jour particulièrement meurtrier entre Israël et l'Iran. Échange de tirs continu. Israël annonce avoir détruit une importante installation nucléaire iranienne ce soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit sur la chaîne Fox News avoir eu, je cite, « le chef du renseignement iranien et son adjoint ». Au moins 128 personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes dans des bombardements israéliens depuis le début de l'offensive vendredi. Et côté Israël, 14 personnes tuées au total, dont 3 enfants. La nuit dernière, un missile iranien a détruit un immeuble résidentiel dans la banlieue de Tel Aviv, notamment. Un bilan qui effraie en France, au sein de la communauté juive, ceux qui ont des proches sur place. Reportage à Paris, Agathe Mahué.
Mireille est grand-mère. Ses fils et ses petits-enfants vivent en Israël.
Évidemment, on est inquiet. J'ai beaucoup de monde. J'ai eu ma meilleure amie avec qui j'ai travaillé toute ma vie, qui, elle, a subi les dégâts. Bah, elle me dit « j'ai peur maintenant ».
Qui est l'agresseur? Qui est responsable de cette situation? Voilà ce que répond Mireille.
Je dis que tout le monde a le droit de vivre, qu'il y avait de la place pour tout le monde et que vraiment leur agissement du 7 octobre permet à Israël de se défendre comme elle veut. Mais surtout, surtout, personne ne trouve qu'Israël a raison.
Et c'est aussi ce que regrette Sarah, dont les proches en Israël ont passé la nuit dans les abris.
Donc on est très inquiets, en espérant que tout ça ne soit pas fait pour rien et qu'on arrive au bout d'un régime qui n'est pas acceptable. L'opinion internationale, et la France en particulier, se trompe d'ennemi. L'ennemi d'Israël, c'est pas les Palestiniens, c'est le terrorisme. Israël, en fait, se mouille pour tout le reste. Israël a été le premier à vouloir attaquer l'Iran en prévention de ce qui se profilait. Pour elle et pour le reste du monde. Maintenant, on espère que les pays du monde ne se désolidariseront pas d'Israël pour qu'on puisse tous se défendre de la guerre nucléaire.
Sarah, comme Mireille d'ailleurs, retiennent aussi que cette nouvelle guerre affectera l'économie du pays et ses activités touristiques.
Reportage à Agathe Mahué, le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à agir urgemment pour prévenir un embrasement régional. Il l'a dit à Donald Trump, avec qui il s'est entretenu au téléphone. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères français a affirmé que la France, à ce stade, n'aide pas Israël à intercepter les missiles iraniens, mais pourrait être amené à le faire en fonction de l'évolution de la situation. La deuxième boîte noire du Boeing 787 d'Air India, retrouvée, elle va permettre d'en savoir plus sur les circonstances du crash de l'avion qui a coûté la vie à 279 personnes jeudi. Moins d'une minute après son décollage, il devait atterrir à Londres. Dans cette boîte noire se trouvent les enregistrements des discussions dans le cockpit. L'autre boîte noire retrouvée vendredi contient les informations liées à la vitesse et à la trajectoire de l'appareil. Au lendemain du meurtre qualifié de politique d'une élue démocrate aux États-Unis, tuée chez elle avec son mari par balle dans l'état du Minnesota. Toujours pas de traces du suspect. Ensuite, sa traque se poursuit. Les autorités américaines offrent une récompense jusqu'à $50,000, l'équivalent de 43 000 euros, à toute personne qui détient les informations permettant de le retrouver. L'assaillant présumé recherché s'appelle Vance Boelter, un homme blanc de 57 ans considéré comme armé et dangereux. En France, il reste 6 départements en vigilance orange pour orage sur la carte de Météo France, du Jura jusqu'au Bas-Rhin à l'est. Ces précipitations qui ont balayé une bonne partie du pays ces dernières heures, des grêlons qui tiennent dans la paume de la main sont tombés en Creuse, des toitures envolées en Côte d'Or. On a d'ailleurs appris que la jeune femme grièvement blessée dans la chute d'un arbre touchée par la foudre à Paris est décédée, ce qui porte à 2 morts le bilan de ces intempéries en France. En judo, le français double médaillé olympique Johan Benjamin Gaba, sacré champion du monde en moins de 73 kilos, victoire en finale à Budapest contre le brésilien Daniel Carnien.
France Inter, partenaire de Enzo, un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo.
Enzo ?
Enzo, 16 ans, apprenti maçon à La Ciotat, cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale.
T'es un petit bourge que je raconte des histoires, c'est tout.
Sur les chantiers, avec Vlad, un collègue ukrainien, Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
J'ai pas envie de cette villa. Ces trucs, tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
Enzo, avec Éloi Pohu, Pierre-Francesco Favino et Élodie Bouchèze, au cinéma le 18 juin, un film France Inter.
John Nesbø, le maître du thriller scandinave, revient en librairie. Dans un village perdu de Norvège, deux frères partagent un secret. Et une liste de morts, longue comme l'hiver. Les Maîtres du Domaine, un thriller d'une puissance psychologique redoutable. Trahison, secret, manipulation. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger votre domaine ? Les Maîtres du Domaine, une histoire de famille pleine de bruit et de fureur. Du grand Jonès Beau en série noire.
France Inter, il est 20h05 à suivre. Dans 5 minutes, Le Masque et la Plume. Autour de vous, Rebecca Manzoni, bonsoir.
Bonsoir Tristan, Le Masque est consacré au cinéma ce soir, avec le nouveau film de Thomas N. Gijol, Fabienne Godet ou encore Kiyoshi Kurosawa. A tout de suite.
Mais d'abord, le temps de se brosser les dents, voici les petits bateaux, Camille Cronier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, torticolis en vue.
Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 8 ans, je voudrais savoir pourquoi nous n'arrivons pas à tourner la tête jusque dans notre dos comme les chouettes.
Oh, t'as raison Noé, j'aimerais trop pouvoir faire ça, ça serait super pratique, dis donc, on pourrait voir directement derrière. Tu vois, là j'essaye, eh ben non, ça coince, t'as raison, comme
tout le monde. Ça craque par contre. Hein.
Ça craque un petit peu, pardon. Et ce monsieur que tu viens d'entendre qui parle, c'est Philippe Charlier, c'est lui qui va répondre. Vous êtes médecin légiste, vous êtes archéologue et anthropologue, alors pourquoi on ne sait pas faire comme les chouettes, nous les humains ?
Eh bien parce qu'on n'a pas les mêmes vertèbres que la chouette et d'autres animaux aussi sont malheureusement construits comme nous. On n'est pas aussi souple que ça. Pour tourner la tête à quasiment 180 degrés comme le fait la chouette, eh bien il faudrait non seulement avoir des vertèbres qui peuvent pivoter à 180 degrés, nous on est vraiment limité, on fait difficilement 90 degrés, mais difficilement, il faut faire un peu de yoga pour aller un tout petit peu plus loin, et puis il faut aussi un réseau musculaire qui permette aussi de s'étendre et une élongation des fibres musculaires qui permettent d'aller jusqu'à ces 180 degrés. Donc nous on est limité à la fois par nos cartilages et nos os, mais également par nos muscles, c'est pour ça qu'on n'est pas aussi souple, mais bon, c'est pour ça qu'on a inventé les rétroviseurs.
Et si on se force ou si quelqu'un force notre tête à 180 degrés, comme vous dites, là, c'est pas bon, en fait, on meurt, non ?
Alors, c'est pire que pas bon. Au début, ça craque, ensuite, ça fait mal, et ensuite, eh bien, ça... Comment dire ? Ça cisaille la moelle épinière. Et donc, oui, ça tue. Ça tue en empêchant la personne de respirer. Ça peut également disséquer, comme on dit, les artères et les veines qui sont au niveau du cou. Je pense veines jugulaires et artères carotides. Et donc, du coup, créer une hémorragie assez importante. Et généralement, on voit ça dans certains films policiers. On voit la personne qui se met derrière, qui prend la tête et qui la fait passer brutalement à 180 degrés. On entend crac, c'est généralement un bruitage, parce que c'est pas fait dans la vraie vie entre guillemets, mais oui, c'est un procédé de mise à mort qui malheureusement est utilisé par certains malfrats. Donc vraiment ne pas essayer, surtout ne pas forcer.
Et pourquoi les chouettes, elles ont ce 180 degrés et pas nous les humains ? Pourquoi l'évolution a fait qu'on peut pas ? C'est que c'était pas utile pour nous ?
C'est que nous, à l'origine, on est des quadrupèdes qui sommes devenus bipèdes à peu près à l'époque de Lucie. Et on n'avait pas. On était destinés à regarder d'abord en bas, vers le sol, puis à redresser notre tête pour regarder vers l'avant. Mais dans notre arbre, on va dire évolutif, on n'a jamais eu de vocation particulière à regarder derrière nous. D'autant plus que nous sommes des animaux, nous les humains, sociaux et théoriquement sociables. Et donc, du coup, nous vivons en groupe et on a toujours quelqu'un à côté de nous ou derrière nous qui est là justement pour surveiller nos arrières. Donc, à la fois sur le plan biologique individuel, mais également sur le biologique sociétal, on n'a pas particulièrement vocation à tourner notre tête vers l'arrière parce qu'heureusement, on n'est pas seul.
Et ça, c'est quand même chouette. Vous l'avez ? Allez, venez, on se fait une toile.
Bonjour, je m'appelle Louise et j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi les araignées et les mantes religieuses mangent leur mari. Au revoir, merci.
Ah là là, les araignées, les mantes religieuses qui mangent les mâles. Christine Rollard, vous qui êtes aranéologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, est-ce que c'est vrai d'une part ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, eh bien, Louise, c'est faux. Alors, ça fait encore partie, tu sais, des choses qu'on généralise un petit peu quand on parle des araignées ou des mantes religieuses. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'espèces de mantes religieuses et toutes les espèces de mantes religieuses, les femelles ne mangent pas forcément leur mâle, leur mari, comme tu disais. Donc déjà, toutes les mantes religieuses, on ne peut pas les mettre toutes dans le même comportement. Et donc pour les araignées, c'est aussi une mauvaise réputation des araignées qu'elles mangeraient effectivement les mâles. Et bien c'est pareil, tu sais, il y a beaucoup d'espèces d'araignées. Et puis il y a certaines qui vont peut-être manger leur mâle, hein, donc une fois qu'ils se sont accouplés. Et puis, ben, y a des mâles qui échappent complètement en fait, à la voracité un petit peu de la femelle. Donc du coup, ils vont aller quelquefois s'accoupler avec d'autres femelles. Et puis quelquefois, ils vont de toute façon mourir après avoir rencontré une femelle, parce que c'est la fin de leur vie. Surtout, Louise, ne généralise pas. Donc du coup, certaines araignées ou certaines mantes vont éventuellement manger leur mâle, mais pas toutes du tout.
Oui, alors, mais sans généraliser, Louise voudrait quand même bien savoir, je pense, pourquoi celles qui le font, en l'occurrence.
Alors, il se trouve que les mantes religieuses, ou les araignées en particulier, sont des prédateurs. Elles vont manger d'autres animaux. Okay ? Et donc, du coup, dans les animaux qui vont pouvoir manger, ben, les araignées peuvent se manger entre elles. Donc, il peut y avoir effectivement des femelles qui peuvent manger leur mâle. Et tu sais, l'araignée, une fois qu'elle s'est accouplée avec un mâle, elle va pondre. Elle pond des œufs. Elle a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir pondre ses œufs. Et ben, le fait de manger une proie, parce que les mâles, ce sont des proies dans ces cas-là, pour les femelles, le fait de manger cette proie, ça va lui apporter de l'énergie après elle pour pouvoir pondre ses œufs. Et ensuite, effectivement, bah après, les protéger ou pas. Mais c'est juste un apport d'énergie et de protéines pour la femelle pour pouvoir ensuite pondre ses œufs. Donc, ça n'est rien d'autre. Il n'y a pas de sentiment, tu sais, dans ces animaux-là.
Eh ben, boum, prenez ça, les mâles.
Manger ou pas manger, de toute façon, ils meurent. C'est la fin de leur vie.
Ah, dans
l'organisme,
tous les cas.
Dans tous les cas, manger ou pas manger, les mâles meurent après l'accouplement. C'est la fin de leur vie, l'organisme, les cellules vont s'éteindre au fur et à mesure, comme nous, à la fin de notre vie.
Mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils pouvaient se réaccoupler éventuellement.
Dans la période de reproduction, un mâle peut effectivement s'accoupler avec plusieurs femelles.
Mais s'il meurt juste après.
Il ne meurt pas juste après l'accouplement, il meurt après cette période de reproduction.
Ah, donc
la période de reproduction peut durer quelques semaines, donc quelques jours, et un mâle qui échappe justement à la voracité des femelles peut aller trouver une autre partenaire.
Mais au bout du compte, il va mourir.
Mais de toute façon, il mourra.
Autant le bouffer, quoi.
Bah oui, ça fait un apport énergétique.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, peut-être joindre l'agréable à l'utile ou le pragmatisme. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et voici Rebecca Manzoni, c'est bien sûr Le Masque et la Plume, avec du cinéma ce soir.
Le Masque et la Plume. Peut-être l'avez-vous remarqué dès mes premiers mots, l'acoustique n'est pas celle de d'habitude, parce que la pièce où nous sommes est plus petite, donc le public moins nombreux. Exceptionnellement, en raison de l'indisponibilité du théâtre de l'Alliance française, le masque se joue dans un des studios de la Maison de la Radio. Nous ne pouvons y accueillir qu'une vingtaine, trentaine de personnes, plus quatre critiques pour débattre de l'actualité du cinéma. Autour de la table sont installés Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, Florence Colombani, Dupoint, Xavier Le Herpeur, de la revue La 7ème Obsession et de France Inter, et de retour après plusieurs mois, plaisir d'accueillir Ava Kahn de Frenchmania.fr. Aujourd'hui, nous parlerons des films de Thomas N. Gijol, Fabienne Godet, Kiyoshi Kurosawa, Lola Doyon et Mike Flanagan. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Un Masque Cinéma. Kill Bill. Tel est le pseudo choisi par un des auditeurs dans le courrier de la semaine et le bien nommé Kill Bill fustige votre descente en flèche de l'avenue de l'avenir réalisée par Cédric Clapiche. Cet auditeur est loin d'être le seul puisque l'avenue de l'avenir est le film pour lequel vous vous êtes le plus mobilisé cette semaine. Laurent Noël d'Epercy estime, je cite, que les critiques du masque ont fait une bouvard. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'une bouvard?
J'espère que ce n'est pas une allusion à Philippe Bouvard.
Eh bien,
parce que je le prendrais extrêmement mal.
Il y a de quoi. Voilà. Il y a de quoi.
Tout, je suis le seul représentant à cette table à avoir descendu en flèche le film de Cédric Clapiche.
Effectivement, une bouvard est inspirée de Philippe Bouvard, journaliste du XXe siècle.
Ça va plus dire à ma mère, mais qu'à elle.
Et pourquoi une bouvard? Parce que cet auditeur précise que Bouvard était connu pour n'avoir prédit aucun avenir aux Beatles. Donc Laurence Norand-Noël, comme d'autres, a beaucoup apprécié l'alternance entre passé et présent de La Venue de l'Avenir de Cédric Lapiche et, je cite, « S'imaginer le parcours de nos aïeuls, la façon dont il déteint sur nos vies aujourd'hui est passionnant. » Pour contrer, je cite encore, « le manque de discernement du masque, Jean-Marie Barbeau explique qu'avec ce film, Cédric Lapiche prouve qu'il peut aborder des thématiques ambitieuses, telles que la naissance de l'impressionnisme et l'invention de la photographie. » Plus jamais tu ne choisiras un film, c'est ce qu'Antoine Capelli de Dunkerque s'est entendu dire par sa compagne en sortant de The Phoenician Scheme, dernier film de Wes Anderson. Selon cet auditeur, le film peut être résumé en trois points. Logorée esthétisante, bavardage sans intérêt, ennui abyssal. Grrr, répond une auditrice, je l'ai mal fait, qui signe Pimprenelle, le dernier Wes Anderson, écrit-elle, est un voyage, un emportement, et ces temps-ci voyager en riant et salutaire. Plusieurs d'entre vous ont donc pris la plume pour défendre le film. Et enfin, Jean-Pierre Beaufils de Villevieille, dans le Gard, dit continuer à écouter le masque, malgré des désaccords très vifs avec les critiques. Pourquoi ? Réponse, parce que vous m'énervez pendant que je conduis et ça m'évite de m'endormir au volant. On commence avec Indomptable, titre du polar de et avec Thomas N. Gijol, qui sort donc du registre de la comédie avec lequel on l'avait connu jusque-là. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé. Thomas N. Gijol est le commissaire Bilong, un homme ombrageux qui tente de maintenir l'ordre dans la ville autant que dans sa propre famille. Et il a tendance à se faire déborder dans les deux cas. En ville, son enquête est contrariée, entre autres, par des coupures d'électricité ou des embouteillages, ce qui empêche la figure classique de la course-poursuite, par exemple. Une fois sa journée de boulot terminée, le commissaire doit faire face au désir d'indépendance et de liberté de ses enfants, dont sa fille aînée en particulier. Son métier de commissaire semblant se fondre avec son rôle de père. Ce polar de Thomas N. Gijol est adapté d'un documentaire de Moscou Lévy Boukot, intitulé « Un crime à Abidjan ». Thomas Gijol en a donc transposé l'intrigue à Yaoundé, une ville liée à son histoire familiale et qu'il connaît très bien. Et ce titre, Indomptable, s'écrit au pluriel. Il était présenté, sélectionné à la quinzaine des cinéastes lors du dernier festival de Cannes. Florence.
J'ai plutôt aimé ce film qui est vraiment un polar, donc qui fonctionne sur le principe de l'enquête et qui, sur ce mode de l'enquête, ne m'a pas totalement convaincue. Donc ça, c'est pour moi un peu la faiblesse du film, c'est que je trouve pas que
c'est qu'on se fout de l'intrigue.
On s'en fiche un peu de cette enquête. C'est un prétexte pour peindre toute une ville, tout un monde, toute une société, et surtout pour faire le portrait d'un père. Et ça, c'est vraiment l'aspect auquel j'étais très sensible. C'est ce portrait de Thomas Gijol en père dépassé, en homme qui essaie de compenser le chaos du monde par l'autorité, un autoritarisme absurde.
Parfois burlesque. D'ailleurs.
Parfois burlesque, mais souvent un peu triste. Enfin, il y a quand même une froideur voilà, dans ses rapports entre ce père et ses enfants qui fait de la peine. On est un peu désolé de voir ça, à quel point ça se délite en plus au cours du film. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est la cruauté. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on est dans ce genre d'autoportrait par un acteur-réalisateur qui cherche à flatter l'ego du protagoniste. Au contraire, ça se passe quand même assez mal pour ce personnage et il n'arrive pas à avoir ce contrôle de sa vie de père, de sa vie d'enquêteur qu'il souhaiterait. Et tout ça, c'est quand même assez fort, assez puissamment ressenti. Et puis, il y a aussi le portrait d'une société, la corruption, toutes les difficultés matérielles. Tu parlais des embouteillages, Rebecca, il y a aussi ces coupures d'électricité. Enfin, il y a une difficulté dans les choses matérielles qui fait que on est un peu englué dans cette histoire avec lui, on sent ce côté poisseux, ce côté triste de la vie quotidienne et ça donne un film d'atmosphère. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la réussite du film, c'est cette atmosphère.
Xavier ?
C'est un film qui doit être très intelligent parce que je ne le comprends absolument pas. Mais j'ai passé mon temps, et je l'ai revu il y a quelques jours en salle, j'ai passé mon temps à me demander pourquoi. Déjà, pourquoi ce remake ou cette adaptation fictionnelle d'un documentaire que je n'ai pas vu? Donc la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, mais ça ressemblait à quoi? C'était un épisode de striptease. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'humour ironique, mais qui, je trouve, ne va pas très très bien avec ce qu'il essaye de nous raconter, qui est quand même souvent grave, parce que vous avez parlé des pannes d'électricité, des embouteillages, mais il y a la corruption, il y a la place de la femme dans la société, sa fille avec laquelle il est brouillé, c'est quand même une intrigue qui est extrêmement intéressante, la place de son épouse à l'intérieur de cette famille, mais toujours sous l'angle d'un humour ironique qui, je trouve, désagréable. désamorce complètement les propos politiques, sociétaux et familiaux qui sont dans le film.
Bah, c'est-à-dire que parfois, on ne sait pas si on doit rire ou non. Rien que la scène d'ouverture du film...
Je l'ai vu en salle, tout le monde rit. Et ça, c'est très embarrassant. C'est-à-dire que tout le monde veut voir une comédie avec Thomas Angel, qui est en plus un comédien que j'aime beaucoup. J'avais très envie vraiment d'aimer le film.
Mais pourtant, la scène d'ouverture pose quand même le ton du film. C'est-à-dire que c'est une conversation entre le père, ce commissaire joué par Thomas Angel, et son fils, et lui dit « Est-ce que tu sais comment Marvin Gaye est mort ?»
Parce qu'il a perdu le CD de Marvin Gaye.
Mais il lui dit « Son père l'a tué. »
Quand tu es dans une salle qui veut absolument que tout soit une comédie, alors que tu as l'impression que devant toi, c'est quelque chose de beaucoup plus amer, de beaucoup plus... parce qu'on voit que le projet de Thomas Angel, et il est passionnant, c'est de revenir sur ses origines, sur ses racines, et de voir effectivement comment lui, qui est maintenant de l'autre côté, acteur reconnu, comique reconnu avec un immense talent, essaye de s'approprier à travers ce documentaire qu'il réadapte ce pays, avec évidemment ses coupures d'électricité. Je ne révèle rien d'extraordinaire, mais un de ses lieutenants qui va être pris la main dans le sac pour avoir effectivement piqué du fric. Enfin voilà, il y a la corruption, et ce personnage traverse cela avec autre question qui m'a taraudé quand même pendant tout le visionnage du film. Pourquoi cet accent ? C'est hyper gênant. Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que personne ne va aller sur ce sujet-là, mais il adopte un accent qui est digne de Michel Leeb, quoi. Alors ça fait beaucoup rire les gens dans la salle, mais moi ça m'a mis constamment vraiment mal à l'aise parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Après, Florence, quand tu dis qu'il se met pas en valeur, il est quand même omniprésent dans les plans et généralement, il est tout seul dans le cadre. Donc, il y a quand même un petit exercice
d'égo. Mais le personnage n'est pas valorisé.
Le personnage n'est pas valorisé. Mais l'acteur l'est.
Mais pourquoi cet accent? Parce que c'est l'accent camerounais, je crois.
Oui, mais non. Pardon, Rebecca, j'entends évidemment complètement cet argument que je ne réfute pas, mais dont je ne vois pas l'utilité, parce que ça fait un numéro d'imitateur que je trouve gênant dans ce film, qui cherche à atteindre une certaine vérité, encore une fois, politique et sociétale, et qui met plein de garde-fous humoristiques qui, je trouve, met à distance le spectateur.
Avare.
Ben moi, je rejoins plutôt Florence, c'est-à-dire que c'est un film qui m'a surprise, qui m'a plu, et j'avoue que je découvre les qualités de metteur en scène de Thomas Angel, parce que voilà, les films qu'il a fait, les comédies précédemment, c'était parce qu'il sautait aux yeux, on va dire, la mise en scène. Et là, je trouve que c'est vraiment un film qui a de la gueule, quoi. Un film qui a une patine teintée d'ocre.
Très belle photo.
Voilà, très belle photo qui est de Patrick Blossier, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas un bleu, hein, qui est une pointure, qui a travaillé avec Costa Gavras, avec Agnès Varda, et qui a surtout fait la photo de Blanc d'Ébène de Cheikh Doucouré. Et c'est par ce film qu'il a rencontré le travail de ce chef opérateur et que Thomas Njijol a voulu travailler avec lui. Et là où je te rejoins, c'est que moi, le personnage m'a touchée. Je trouve qu'il se désavoue un peu, quoi, même dans ce film. C'est un commissaire très à l'ancienne, c'est pas un ripou, c'est pas non plus un dirty comme Harry, mais c'est pas quelqu'un d'irréprochable. Il se définit comme un homme de tenue, et en réalité, ben voilà, il passe à tabac ceux qu'il cuisine, enfin voilà, et on voit que...
Et ses enfants parfois.
Exactement. C'est très conflictuel aussi au sein de son foyer, tu en as parlé, avec sa femme, il y a des engueulades constantes, avec ses grands, plus grands enfants qui lui reprochent, hein, son autorité complètement écrasante. Et donc, je trouve ça intéressant de voir un personnage qui est un peu hors de son temps, enfin en tout cas qui n'appartient plus à son temps et qui va finir par le constater amèrement. Voilà, je trouve le film plutôt intéressant.
Le flic et le mec à l'ancienne. Ouais. Jean-Marc.
Ben moi, je rejoins plutôt Xavier. Moi, je trouve effectivement qu'il y a un problème sur le personnage, c'est-à-dire que le film fait le portrait d'un tyran domestique, mais j'ai le sentiment que le film est aussi sous la tyrannie de son personnage, que Angel cinéaste est sous la tyrannie de Angel acteur, et il n'y a pas assez de contre-champ, il n'y a pas assez de dialectique. Le personnage, par exemple, de son épouse, qui a trois scènes, où effectivement elle met les points sur les i, mais elle est vraiment transformée en machine à récrimination, et c'est extrêmement réducteur pour elle. Et
ah, je trouve qu'il y a un défaut de... scènes fortes, au contraire, ouais. où elle lui oppose
ça réduit énormément le personnage, ouais, à une machine comme ça à reproche. Et je trouve que la fille aussi, qui pourrait être intéressant, manque au film. C'est-à-dire que le personnage dévore absolument tout ce qui est autour, et de la même façon, je trouve que cette intrigue dont tu as dit toi-même, Florence, qu'elle n'était pas très passionnante, qu'elle est un peu poussive, elle produit un effet étrange qui est qu'on est toujours plus intéressé par ce qui se passe dans le fond du plan qu'au premier plan. C'est-à-dire que tout ce qui est l'immersion dans la ville, dans Yaoundé, ça me passionne. Mmh. C'est-à-dire que la manière dont les gens vivent, les endroits où ils vivent, la lumière, la rumeur, je trouve ça... Mais presque ce qui est devant me gêne, en fait. J'aurais aimé que l'intrigue se dissolve davantage. Pour une fois, je dirais que le film est presque trop court. On aurait aimé que cette intrigue ait le temps de s'effacer au profit de la pure description et qui me manque vraiment dans le film.
Est-ce qu'un spectateur ou une spectatrice du studio 621 souhaite prendre le micro pour participer à cette tribune ? comme vous êtes éclairé par des projecteurs, je vous vois tous faire non de la tête. Donc après Indomptable de Thomas N. Gijol, on continue avec Life of Chuck de Mike Flanagan, réalisateur américain qui circule à l'aise entre cinéma et série. Et avec ce nouveau film, Mike Flanagan adapte un texte de Stephen King pour la troisième fois. Life of Chuck remonte le temps et la vie d'un homme ordinaire, Charles Kranz, dit Chuck, en trois chapitres. Dans le premier chapitre, Chuck n'apparaît d'abord qu'à travers des pubs, spots radio et télé, où on le remercie pour ses, je cite, 39 fabuleuses années de service. Et pendant ce temps, c'est la fin du monde. La Californie est engloutie par les eaux, les hôpitaux sont désertés par les soignants, etc. etc. Et du registre du film catastrophe, on passe ensuite à une comédie musicale, avec le deuxième chapitre. Et enfin, dans le troisième, un teen movie qui raconte l'enfance de Chuck. Et cette troisième partie nous donnera aussi les clés de ce qu'on vient de voir. Donc c'est un film en réseau qui mute avec des échos visuels, sonores d'un chapitre à l'autre. Chuck, à ses différents âges, est interprété par Tom Hiddleston, Jacob Tremblay et Benjamin Pajak. Ava.
Eh ben, vous l'avez dit, hein, c'est pas la première fois qu'il adapte effectivement Mike Flanagan du Stephen King, mais là il s'attaque non pas au versant horrifique, mais plutôt au versant fantastique, philosophique, et ça donne un résultat, je trouve, assez surprenant, assez inattendu, une fable sur l'humanité figurée par les protagonistes de ces trois histoires qui sont contées et qui sont toutes reliées par un fil qui est très ténu. Moi, j'ai bien aimé, voilà, cette structuration en actes. Il y a trois actes et la chronologie de ces actes est bouleversé, ça fait 3, 2, 1, un peu à la manière d'un décompte, et justement, vous le disiez, voilà, on apprend que le monde est en train de s'effondrer, que le monde... Voilà,
et que va-t-on faire du temps qu'il nous reste ?
Exactement, et c'est un très beau film sur ça, puisqu'il ne va pas dans le film catastrophe, il ne prend pas ça par ce biais-ci, mais au contraire, il le traite, il emprunte les chemins du mélo familial. Et donc voilà, ça donne lieu à des scènes très émouvantes, je pense par exemple bien sûr à la scène de danse improvisée de Tom Hiddleston, qui est très belle, qui est très La La Land, mais il y a aussi tout un passage avec Mark Hamill qui fait l'éloge des mathématiques et qui dit qu'elles sont omniprésentes dans notre vie et qu'on peut même les voir dans le ciel étoilé qu'on regarde, et je crois que Mark Hamill en connaît un rayon, hein, sur les cieux étoilés. Donc voilà, c'est un film très inattendu qui m'a beaucoup ému. Le combo métaphysique quantique plus danse de salon, moi ça a marché sur moi.
Dans le film, il y a peut-être un problème avec la voix off, je sais pas. Jean-Marc ?
Moi, je l'attendais beaucoup parce que je m'intéresse énormément à Flanagan, The Haunting of Hill House. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, une des plus grandes séries récentes, enfin, de ces 10 dernières années. Et j'ai été vraiment très déçu en voyant le film. Mais il se produit une sorte de tectonique des plaques, des souvenirs que je garde du film, qui fait que c'est en train de bouger en moi et que je suis un peu hanté par le film. Mais je vais quand même d'abord parler de...
Alors,
ce qui va être...
Alors, résultat des courses.
Un flashback. Un peu...
3, 2, 1.
J'adore les 20 premières minutes du film. C'est-à-dire que ce film sur l'extinction de l'humanité, l'effondrement de la civilisation, tout à coup, je trouve qu'il touche à quelque chose qu'on a tous envie de voir parce que ça nous obsède, parce que ça nous hante. Et le récit extrêmement bien. C'est-à-dire que le film fait très très peur et on est sidéré par ce qu'on voit. Mais ce film-là, il nous le retire au profit d'un roman familial qui, pour le coup, me déçoit. Et dans ce film où il est beaucoup question de deuil, moi, j'ai du mal à faire le deuil de ce premier film qui m'était promis et qui m'a été retiré. Et donc, ce deuxième film...
Toi, tu voulais voir un film catastrophe.
Exactement. et le chromo familial, je le trouve un peu guimauve, un peu niais. Et donc...
C'est surtout la musique qui rend ça un petit peu niable, ta musique.
Même le discours sur la magie de la vie, la citation de Walt Whitman, c'est-à-dire que je contiens la multitude, elle est illustrée de manière très littérale et d'une façon que je trouve un peu niaise. Mais finalement, après avoir vu le film, cette idée que, alors je spoil, mais vraiment un tout petit peu, cette idée que la fin d'une vie, disons, et que la fin du monde, ce sont deux catastrophes comparables par celui qui le vit, le côté presque providence d'Alain René sur un aspect de cerveau malade qui tout à coup délire le monde, je trouve ça quand même très puissant et je ne cesse d'y repenser. Donc voilà, je suis en train de changer, en transition d'avis sur le film.
Work in progress.
Sachant que pour revenir sur cette première partie film catastrophe, c'est aussi avec des images qui ne sont pas vraiment spectaculaires.
Non, tout est en champ en réalité, c'est presque ça qui est facile.
Il n'y a pas le cliché de la foule en panique, etc. Xavier.
Alors moi j'ai suivi le conseil de Nicolas Chalère, notre petit camarade, qui dans son papier dans le Nouvel Obs disait il faudrait le revoir pour être sûr que ça marche une deuxième fois, ça marche encore mieux. Moi j'ai les revus.
Toi t'as vu tous les films du programme deux fois aujourd'hui en fait.
Mais tu sais moi je suis très scolaire, quand on n'a pas de talent on essaie d'avoir au moins un tout petit peu quand
remercie.
Même. Mais moi c'est un film qui me bouleverse, mais vraiment ça remue sans doute quelque chose. Rassurez-vous sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais je le trouve extrêmement intelligent, esthétiquement, extrêmement pertinent par rapport justement à sa manière de déconnecter peut-être le film d'horreur. Jamais ça n'est aussi angoissant que quand les plans sont posés, sont rallongés, quand on suit deux personnages dans une voûte céleste. Alors évidemment, la situation de Walt Whitman est assez évidente. Et qu'est-ce qui devient effectivement de cette multitude que nous avons entre nos deux oreilles le jour où nous mourrons? Je me suis souvenu aussi de la légende d'Odin. Vous savez, quand Odin est mort, son crâne a constitué la voûte céleste, que je trouve une des plus belles légendes vikings du monde. Je trouve ça très très beau. C'est-à-dire que son crâne, qui tenait son cerveau, est devenu ce que nous regardons, cette promesse comme ça d'ailleurs. Et c'est quelque chose, moi, vraiment qui m'émeut. J'aime beaucoup la dernière partie parce qu'elle est quand même hantée par une pièce interdite. Dont on ne dira rien, bien évidemment, ici.
C'est un grenier,
même s'il y a quelques indices, mais que son grand-père lui interdit formellement d'aller visiter. Et quand l'enfant s'y risque, il se prend effectivement une réaction un peu violente du grand-père. Je trouve que c'est absolument bouleversant parce que qu'est-ce qui reste de nos vies quand nous partons? Des gens que nous avons aimés, nous sommes tous récipiendaires des souvenirs de nos grands-parents et quand nous ne serons plus là, eh bien, les souvenirs partiront avec. Et j'ai des espèces de dégradation comme ça, de déliquescence des souvenirs des gens que nous avons aimés, avec lesquels nous partirons définitivement. C'est le cœur même de l'histoire de Stephen King, qui est un auteur brillamment intelligent, il faut quand même le dire, et un adversaire redoutable de Donald Trump, donc il a toutes les qualités, ce monsieur. Et quand il est là dans son sujet, même dans ses récits d'horreur, c'est ça. Malgré notre connaissance, malgré notre érudition, malgré notre goût de la culture, tout ça habite une vie, mais malheureusement ne nous survit pas.
Florence, pour terminer.
Moi, je rejoins Jean-Marc dans le sens où j'ai été aussi dans la nostalgie de cette première partie pendant tout le film, et même du premier héros, parce qu'il faut dire que dans la première partie, c'est pas Chuck du tout le héros.
C'est un enseignant.
C'est un enseignant qui est joué par cet acteur anglais formidable, Chiwetel Ejiofor, et qui est très émouvant, qui est très sensible, très intérieur. Et la façon dont lui perçoit cette fin du monde ambiante, et moi, ça m'a un peu fait penser à Mélancolia de Lars von Trier, ce qui est quand même étrange comme lien. Et
comme
c'est là qu'on voit la richesse aussi de l'univers de Mike Flanagan, c'est qu'il tire de partout et il réinvente les choses à sa façon. Mais donc on est un peu dans cette ambiance métaphysique, de film catastrophe métaphysique, avec ce personnage qui perçoit les choses avec une sensibilité très forte. Et quand on perd ça, pour moi aussi, on revient vraiment sur des rails un peu trop prévisibles. Et j'ai été gênée. Parce que tu disais, Rebecca, la voix off, les très nombreux speeches aussi. Il faut dire que chacun y va de son petit monologue quand même sur le sens de la vie. La prof de littérature anglaise, le grand-père à propos des mathématiques, la grand-mère. Enfin, chacun quand même a un message à délivrer qui est formulé. Et ça m'a rappelé le fait que il faut quand même dire que Stephen King avait été très déçu par l'adaptation de Shining par Kubrick. Et il en avait fait un rejet du cinéma. Et ensuite, à partir de là, il a exigé que les scénarios qui sont adaptés de ses livres, soit d'une fidélité absolue. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on est tellement dans la lettre de la nouvelle, avec la voix off, il n'y a pas une parole dite dans la nouvelle qui n'est pas à l'écran, que ça ne décolle pas pour moi. Enfin, on reste vraiment trop dans le littéral de Stephen King.
Parmi le public du studio 621, oui, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Oui,
alors moi, à l'inverse de Jean-Marc et de Florence, j'ai été très décontenancé par la première partie. Et ensuite, dans la deuxième partie, je trouve qu'il y a des très 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 belles scènes, notamment de danse, vous l'avez dit, par lesquelles on se laisse totalement emporter, et puis les pièces du puzzle s'assemblent au fur et à mesure. Et je voulais dire aussi que c'est un film qui nous reste énormément en mémoire. Et c'est très très beau d'avoir ces souvenirs qui infusent, en fait.
Parce qu'on reconstitue le puzzle.
Tout à fait, et il y a vraiment des très belles scènes, on se laisse vraiment emporter, et voilà, moi je vous conseille d'aller le voir.
Life of Chuck de Mike Flanagan. On passe maintenant au répondeur de Fabienne Godet avec Denis Podalydès et Salif Cissé. Denis Podalydès et Pierre, un auteur à succès qui tente d'écrire un nouveau roman, mais quelque chose l'en empêche. Ce quelque chose est un objet plat qui vibre ou sonne, c'est donc son portable. Comme message et coup de fil incessant détourne sans cesse Pierre de l'écriture, il fait appel au service de Baptiste, Salif Cissé à l'écran, un jeune comédien qui fait des imitations dans un petit théâtre, en plus de bosser pour la centrale téléphonique d'un assureur. Pierre confie donc son téléphone à Baptiste, comme s'il lui confiait sa vie sociale, pour que Baptiste devienne son répondeur humain. Donc que Baptiste prenne sa voix pour répondre à sa place, à sa fille, son père, son ex-femme, etc. Sauf que Baptiste ne va pas se contenter de répondre, il va aussi prendre quelques initiatives. Ce titre, Le Répondeur, est le même que le roman dont il est adapté, signé Luc Blanvillain, et il a reçu le prix du public du Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez. Jean-Marc.
J'ai assez agréablement surpris par le film, dont j'attendais vraiment pas grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai été assez séduit par des qualités d'écriture, par le jeu des interprètes. On sent que ce qui se produit entre les deux personnages se produit aussi entre les deux acteurs. C'est-à-dire qu'ils se, à la fois ils se cherchent, ils s'observent, il y a une curiosité réciproque,
donc,
il y a un plaisir.
Podalydas et Salif Sissé.
Voilà, Salif Sissé et Podalydas, d'être à la fois complémentaires, mais peut-être pas aussi éloignés qu'on aurait pu l'imaginer. Donc c'est vraiment un assez beau film d'acteurs. Et puis il y a une idée que je trouve quand même assez forte, d'autant plus qu'elle est presque pas verbalisée par le film, qui est que dans le roman, j'ai vérifié, le personnage de l'imitateur n'est pas racisé. Et je pense que c'est assez fort d'avoir choisi un acteur racisé pour le jouer, parce que du coup, sans que jamais ça ne soit dit, ça devient vraiment un film sur l'invisibilisation des personnes racisées dans la société bourgeoise française. Et le fait que ce ne soit jamais un objet de discours du film, mais que le film ne montre pas autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour exister dans un milieu de bourgeois blanc, est obligé de se nier lui-même et d'imiter les codes,
de se
la
fondre
voix,
dans sa voix.
Voilà, de se fondre et de disparaître. Donc cette disparition-là, cette invisibilisation, c'est assez beau qu'elle soit au cœur du film, mais tout en étant le secret, c'est-à-dire que c'est jamais un objet de discours. Et ça, c'est beau.
Florence.
Oui, moi, je te rejoins complètement, Jean-Marc, là-dessus. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir le Get Out français. C'est-à-dire que dans Get Out, Jordan Peele interrogeait la façon dont les Noirs sont presque vampirisés par les Blancs aux États-Unis dans un contexte très américain. Là, on est aussi dans un contexte sociologique français très précis, très bien mis en scène, d'ailleurs. Enfin, très bien croqué. Et on a ce personnage de Salif Sissé qui est non seulement instrumentalisé par le personnage de Denis Podalydès, mais qui est aussi érotisé par sa fille, qui en fait son modèle quand même, et qui le fait poser. Et qui...
Parce que sa fille est peintre et donc il pose pour elle.
Exactement, et elle a même un discours à un moment qui est très gênant, mais c'est très intéressant ce moment où on est gêné, sur le fait qu'il y a toujours du désir qui circule à partir du moment où on fait poser quelqu'un, mais qu'elle ne sait absolument pas si ce désir veut dire quoi que ce soit, alors que lui, clairement, a conçu des sentiments pour elle. Donc on sent une instrumentalisation terrible et ça devient oppressant. C'est un film qui devient au fur et à mesure très noir. Après, je trouve que le côté comédie pure, un peu gaguesque et tout ça, est quand même assez poussif. Parce que d'un côté, c'est Get Out, mais de l'autre, c'est le jouet de Francis Weber. Enfin, on est vraiment entre ces deux pôles. Et sur ce plan-là, je trouve que ça fonctionne quand même pas très bien. Et il y a tout un moment, une bonne heure, peut-être 45 minutes du film, où on voit quelqu'un répondre au téléphone, ce qui n'est vraiment pas cinématographique du tout. Enfin, vraiment, s'il y a une situation qui n'est pas intéressante à filmer, c'est bien celle-là. Donc, le film, finalement, par sa mécanique et par ses choix narratif devient plus intéressant, mais il n'est pas passionnant de bout en bout.
Xavier.
Alors, je trouve un tout petit peu sévère, et c'est sous-estimé, à mon sens, le travail de Fabienne Gaudet, parce que je suis assez d'accord avec Jean-Marc. On a quand même deux acteurs extrêmement différents. Denis Podalydès est quand même une petite chose, entre guillemets, surtout par rapport à la carrure de Salif Sissé, et elle arrive justement à filmer la cohabitation improbable de ces deux corps, de ces deux corps de comédie. Donc voilà, l'antagonisme, il est aussi à travers l'expression corporelle, à travers cela. Il y a beaucoup de sensualité chez les deux, elle n'est pas au même niveau, bien évidemment, mais elle est très très bien filmée. Tu reproches les scènes de téléphone qui ne sont pas cinématographiques, mais je trouve qu'elle trouve du cinéma à l'intérieur, puisque c'est quand même très troublant que quelqu'un entende quelqu'un prendre sa voix pour résoudre ses problèmes, certes professionnels, mais parfois aussi
amoureux.
Amoureux, ouais. Voilà. Et la très bonne idée de scénario, mais qui devient intéressante, parce que là aussi, c'est une autre sensualité, tu l'as dit avec la fille, ça, nous sommes entièrement d'accord, c'est Horatica, que je trouve toujours une comédienne absolument magnifique et qui n'est absolument pas prise au piège. C'est-à-dire très vite, elle déjoue, je peux le dire, c'est dans la bande-annonce. Là, vraiment, je ne révèle rien. Hein, elle me dit, oui. Mais quand j'appelle machin, est-ce que c'est sur toi que je tombe? Voilà. Et le fait qu'on fasse rentrer cette femme qui aurait dû être aussi abusé par le piège et qui ne tombe pas dedans, et qui devient complice des deux hommes, qui fait un lien aussi, là encore, avec le corps d'Horatica, avec sa pétillance, avec son humour, sa décontraction naturelle. On évite justement le côté Weber, on monte jusqu'au bout la chose, jusqu'au moment où elle craque, on la fait craquer un tout petit peu avant pour relancer effectivement d'autres thématiques, et je trouve ça quand même non seulement très bien écrit, mais en plus vraiment, pour une comédie française qui est souvent l'oxymore, drôle et bien mis en scène.
Ava,
non, c'est vrai que c'est un film très bien écrit. Et moi, j'ai aimé rencontrer, en fait, ces personnages aussi fabuleux que détestables. Voilà. Mais cet écrivain qui reprend comme ça goût à la vie parce qu'il ne répond plus à son téléphone, cet imitateur humoriste qui est employé par cet écrivain, mais qui, malgré lui, en fait, va changer un peu son destin. Et puis la fille, vous en parliez de cet écrivain qui est apprenti peintre et qui peint justement des enfin, voilà, qui essaye de capter la vulnérabilité, en fait, à travers les modèle qu'elle choisit. Et j'ai l'impression que Fabienne Godet essaye de faire ça, d'essayer d'aller voilà, chercher de la vulnérabilité chez ses personnages. Elle est saillante, en fait, cette vulnérabilité, mais ils ne s'en rendent même pas compte. En revanche, c'est vrai que ça ne m'a pas donné l'effet d'une comédie. Enfin, je n'ai pas du tout ressenti les effets comiques, mis à part, bien sûr, le principe d'installation, le trucage du doublage, voilà, qui est un petit peu farcesque.
Qui met quand même longtemps à s'installer aussi.
Ouais, hein, mais là, tout de suite, j'ai l'impression qu'on sent que l'air est grave, en fait, que l'air des personnages, enfin, que respirent les personnages est grave, et c'est quand même un film qui parle de dépression, de burn-out, de dépréciation de soi, de peur de l'échec.
Le personnage du père.
Exactement.
Qui apporte une tragédie qu'on ne voit pas venir.
Et il y a une galerie de personnages qui, moi, me...
Mais maintenant, on la voit venir, du coup.
Mais non, parce que je n'ai absolument pas dit comment elle se caractérisait.
C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi un mariage d'une famille d'acteurs voilà, qui est absolument fabuleuse à redécouvrir. Tu parlais de Horatica, mais il y a tout un jeune casting aussi, Manon Clavel,
Clara Breteau,
voilà.
Est-ce qu'une personne du public souhaite intervenir pour le répondeur de Fabienne Godet ? Non, aucun bras ne se lève. Donc, après le répondeur, voici Cloud du japonais Kiyoshi Kurosawa, maître du cinéma de genre qui s'est fait connaître à la fin du siècle dernier et Lion d'or à Venise il y a 4 ans avec Les Amants Sacrifiés. Ce film-ci, Cloud, est inspiré d'un fait divers. Yoshi, employé dans une usine, arrondit ses fins de mois avec la revente d'objets en ligne, des sacs à main contrefaits, des figurines, etc. Et le jour où il réalise une grosse marge, il refuse une promo que lui offre son patron, il démissionne de l'usine et s'installe dans une maison de la campagne tokyoïte avec sa compagne. En même temps qu'il poursuit ses reventes d'objets en ligne, une menace non identifiée et anonyme se resserre autour de lui, jusqu'à s'incarner dans un groupe d'hommes qui veut sa peau. À partir de là, Cloud bascule de la chronique sociale au film d'action, voire au cauchemar. Alors je précise que le 4 juin est sorti Chime, moyen-métrage de Kiyoshi Kurosawa, que le 13 août sortira La Voix du Serpent du même Kiyoshi Kurosawa, et que donc ça fait 3 Kiyoshi Kurosawa en 3 mois. Et qu'en est-il pour Cloud, Xavier ?
Kurosawa n'est pas un cinéaste que j'affectionne. C'est-à-dire, tout le début de la carrière de Kurosawa, j'ai eu l'impression qu'il faisait des remakes de films qu'on avait déjà vus. Hein. Ça allait de Languille à Dimamura, à d'autres films. Donc j'avais l'impression que c'était un bon faiseur. Au fur et à mesure, côté scénario, ça ne s'améliore pas. Il faut quand même être un petit peu honnête. Donc je préfère une version de 45 minutes à une version effectivement de 2 heures. En revanche, formellement, c'est absolument passionnant. Et le vis-à-vis des deux premiers films sortis que tu as cités est quand même impressionnant. D'intelligence cinématographique. C'est vraiment, si on aime la mise en scène, ce ne sera pas tout à fait le cas du dernier film qui reste à discuter aujourd'hui, mais voilà, petit effet d'avance.
Attendons.
Il a une manière de créer des tensions là où on ne le voit pas venir, avec un travail sonore absolument extraordinaire. Il y a une diffraction du relief sonore. Il est capable, juste, alors c'est dans Claude, pardon, mais avec des bouteilles plastiques que l'on vide dans une poubelle, à nous terroriser. Et on retrouve cette même ambiance sonore de ce film-là, qui est donc un tout petit peu long, mais il a une manière, une façon absolument extraordinaire de filmer de manière concrète les névroses des personnages. Ça ne passe pas par le dialogue, ça passe par une espèce de côté compulsif, effectivement, de collectionner, d'acheter, de trahir.
De vivre la vente, comme un shoot.
Et il y a une scène terrorisante dans ce film, qui est un moment où il installe des cartons dans le sous-sol d'une maison isolée, en pleine campagne, où il a décidé effectivement d'installer sa boutique devant Tali. C'est rien, c'est des cartons qu'on empile. Et là, on s'est dit, mais le mec, je ne veux pas le rencontrer dans la vraie vie. Là, moi, il me fait très, 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 très peur. Et subitement, tous ces personnages qu'on n'a pas du tout, effectivement, envie de rencontrer, deviennent une espèce de projection, comme ça, de nos terreurs, oui, encore une fois, de nos phobies. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que, alors, le scénario n'est pas très bien bâti, le dialogue est assez inexistant, mais tant mieux, mais ça passe toujours par le sens du cadre, par une diffraction du son, par une manière, effectivement, dans le montage, de vous trouver comme ça des choses extrêmement cut, de proposer des débuts de scène que l'on croit connaître, c'est-à-dire un travelling avant vers quelqu'un qui se retourne au moment où la caméra le frôle, et on ne sait pas ce qui se passe. Et je trouve que cette manière de nous mettre en condition pallie, voilà, la petite défection scénaristique, mais en même temps, quel formaliste.
À voir.
Ben, moi, j'aurais aimé que le nuage soit plus insaisissable et un peu plus menaçant, d'autant plus que, effectivement, les films de Kurosawa sont des films très angoissants et plus incisifs, je trouve, sur le regard qu'ils portent sur la société contemporaine
japonaise. Oui, je précise que celui-ci, angoissant, il est plutôt modérément.
Modérément, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, la première partie. La première partie m'a beaucoup angoissée. Voilà, la première partie, en tout cas, moi, m'a beaucoup angoissée. Elle se passe en ville, d'ailleurs, à Tokyo. sociaux. Voilà, c'est toute la mise en place du cauchemar hein, que va vivre le héros qui pense avoir trouvé le bon filon et en fait voilà la petite entreprise de e-commerce qu'il a mise en place va tomber à l'eau. Et donc voilà, vous l'avez dit, on passe du thriller psychologique et social à suspense à un genre de home invasion qui à ce moment-là, moi, me fait un peu décrocher. Quoi. Voilà, ces mecs cagoulés, armés, le chantage, les règlements de compte, je trouve ça un petit peu poussif. Après, je te rejoins complètement, Xavier, il y a un metteur en scène, c'est évident, c'est quand même un film de Kurosawa. Oui, les plans sont ultra composés et puis les perspectives sont aussi bouchées, ce qui en dit long aussi sur l'avenir voilà, qui est réservé aux protagonistes. Voilà, je trouve qu'on comprend vite le point qu'il veut marquer sur sa critique du capitalisme et de l'individualisme. C'est, voilà, c'est finalement très clair et dès que la menace est incarnée, eh ben, en réalité, voilà, moi je décroche un peu. Je préférais quand ça restait tout nébuleux.
Ah, c'est ce côté film d'action est l'une des choses que j'ai préférées pour ma part, Florence.
Moi aussi, j'ai adoré le côté film d'action. La fusillade derrière des murs, on est quasiment dans un jeu vidéo dans la dernière partie.
Ouais. Oui, et puis c'est très concret, les gars n'ont pas le temps de recharger leur
exactement.
Un petit peu des Peking-Pa western.
Chien de paille, on y pense un peu. Ouais.
Mais en fait, Kurosawa, il a cette virtuosité incroyable de pouvoir toucher à tous les genres. Et pour moi, Les Amants Sacrifiés, qui était son film d'époque sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc là, dans le propos, Cloud n'est pas à la hauteur romanesque, mais il y a un propos quand même assez fort sur le capitalisme, sur... on voit tous ces appartements avec ces objets, saturés d'objets, ça devient extrêmement anxiogène. Enfin, pour le coup, moi, la première partie, en effet, m'a beaucoup angoissée. J'ai été très sensible aussi à sa capacité à tirer quelque chose de scène qui ne devrait rien donner. Et là, on touche à ce que je disais sur le répondeur, c'est-à-dire voir quelqu'un qui regarde son écran d'ordinateur, c'est normalement très ennuyeux et totalement sans intérêt. Là, il donne un relief
de la
à ça.
Réactualisation.
Exactement, parce qu'en fait, il scrute son écran
de
voir
loin.
Si ouais. sa cargaison part, si elle se vend, et il a un rituel où il s'éloigne, il recule son fauteuil.
C'est pour ça que je parlais d'un shoot, c'est qu'on a l'impression qu'il prend de la drogue. Quoi.
Voilà, moi j'ai eu l'impression que c'était un plaisir érotique, mais enfin c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà. Chacun sa référence. Mais il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui est assez fascinant. Et c'est une sorte de leçon de mise en scène absolument époustouflante. Le découpage dans toute la dernière partie où on est proche de Reservoir Dogs dans ce qui se passe entre les personnages, c'est vraiment à en remontrer à Tarantino. Il y a une capacité.
Ça, c'est pas difficile.
Formelle au débat pour une autre fois. Mais vraiment, on est face à un des plus grands metteur en scène du moment, donc c'est quand même éblouissant.
En tout cas, l'ensemble de la presse était moins enthousiaste que vous, Jean-Marc.
Bah oui, moi aussi, je pense que des films de la semaine, c'est en tout cas indubitablement celui qui imprime les émotions de cinéma les plus spécifiques et les plus fortes. C'est vraiment un pur film de mise en scène. Alors évidemment, c'est vraiment pas un grand storyteller. Je pense qu'il n'aspire pas à l'être. Je sais pas s'il en serait capable, s'il désirait, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui a des visions et qui sait juxtaposer ses visions, nous les imposer comme ça, et ce que ça produit, c'est vraiment très fort plastiquement. Le film répond vraiment à Cairo, qui est un film qu'il a fantastique, qu'il avait fait il y a 25 ans et qui anticipait un peu la mue numérique du monde dans lequel on vit.
Il était déjà question de ça, voilà, ouais.
Et qui nous disait que tout à coup, cette doublure numérique du monde, c'était la porte ouverte aux esprits frappeurs, aux fantômes qui allaient nous détruire. 25 ans après, il nous dit que c'est vraiment un peu en train d'être fait, c'est-à-dire que le capitalisme technologique a détruit l'empathie. Moi, je trouve que c'est peut-être simple, mais c'est quand même assez puissant la forme qu'il donne à cette critique du nouage, capitalisme et technologie, et la manière dont l'empathie, le corps humain, tout ce qui n'y est fait retour sous la forme d'une farce violente, cruelle, horrible, dans la deuxième moitié, je trouve ça assez réjouissant, donc je trouve le film vraiment assez fort.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir concernant Cloud de Kiyoshi Kurosawa? Vraisemblablement.
Vous voyez
non.
Les deux, parce que vraiment, c'est très intéressant.
Chime, le moyen-métrage,
ouais,
et Cloud, qui est sorti cette semaine. On termine donc avec différentes titres du quatrième long-métrage de Lola Doyon, Katia Vianante, elle a la trentaine, et travaille comme documentaliste dans une boîte de production. Au boulot, et en groupe en général, elle est sans filtre, tout en étant empêchée par plusieurs angoisses. Un jour, un de ses collègues journalistes lui demande de le remplacer pour un reportage sur l'autisme. Et au fil de son enquête sur le sujet, Katia se reconnaît dans des symptômes autistiques et avance pas à pas pour obtenir un diagnostic. Comment Katia vit cette différence au quotidien, sur son lieu de travail, dans ses relations familiales, mais surtout dans son couple, parce que l'histoire d'amour que Katia vit avec Fred est au cœur du film. Katia est interprétée par Jenny Beth et Thibaut Evrard joue Fred. Florence.
J'ai trouvé le film à la fois sympathique et touchant. On ne peut que penser que c'est un sujet dont il faut parler.
Ça commence mal si tu commences comme ça.
Non, mais c'est difficile parce que, évidemment, qu'il faut parler de ce
sujet. Je vois les gants que tu mets.
Évidemment qu'on a envie d'être en empathie avec Katia et avec sa difficulté à être. Simplement, les choses sont tellement mises en place dans les 10 premières minutes. On nous explique quels sont les symptômes de l'autisme et on les reconnaît déjà chez ce personnage. Donc ensuite, le programme se déroule d'une façon très prévisible et très appliquée. Et je ne trouve pas, enfin pour moi en tout cas, les personnages ne prennent pas assez de relief et de vie individuelle pour que on puisse décoller de ce qui est un très bon sujet d'article ou un très bon sujet de documentaire, de reportage. Mais pour moi, le film est vraiment plombé par sa mise en place. C'est que tout nous est donné, tout nous est surligné très tôt et on comprend bien avant le personnage quel est son diagnostic. Donc ce côté, quand le spectateur a tellement un temps d'avance sur l'action, ça plombe le film. Hein.
Mais on croit à cette histoire d'amour quand même, entre Katia et Fred.
Ils sont, en effet, enfin, moi Jenny je les ai trouvés sympathiques.
Et Thibaut Hébrard. Jean-Marc.
Oui, je vais aussi commencer par des préconisations oratoires, des dénégations. C'est-à-dire que quand le film commence, je me dis, tiens, ce personnage, on l'a jamais vu dans le cinéma français. Ce sujet, on l'a jamais traité. Et j'étais assez enthousiaste. Et donc, ce bénéfice qui est énorme, c'est avoir le sentiment qu'une question, le trouble autistique, et un personnage, une jeune femme atteinte d'autisme et qui ne le sait pas, et qui va le découvrir, qui va mettre le mot. Donc, on se dit, c'est gagné en fait. Forcément, le film va dire des choses intéressantes et le film est un éteignoir. Vraiment, le traitement scénaristique est tellement mais formaté. Chaque scène qui amène un nouveau conflit puis une résolution. Vraiment, on sent la cuisine scénaristique tout le temps. Il se passe sans arrêt quelque chose. Par peur que le spectateur s'ennuie. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a vraiment un déficit d'accès à l'intériorité du personnage de Jenny Bat, à ses perceptions, à tout ce qui nous passionnerait, et où on est pris par des petites histoires mal racontées. Voilà, je trouve que le film est vraiment terrible.
Xavier.
Est-ce que tu comptes sur moi pour remonter un tout petit peu la
côte
du film ?
C'est l'idée.
C'est-à-dire, j'ai eu l'impression de voir le devoir très scolaire d'une bonne élève qui veut bien faire, petit A, petit B, petit C. Voilà, elle va nous expliquer ce qu'est l'autisme, les retentissements sur la cellule familiale, amoureuse, sociale. Elle a bien tout listé, il n'y a pas de problème, il manque rien. Sauf qu'il y a un moment, Jean-Marc l'a très bien dit, mais Florence aussi, pour percuter cela, il faut une vraie mise en scène. C'est-à-dire qu'il faut que la mise en image aille chercher l'opacité, le trouble du personnage. Parce qu'en plus, son autisme, elle l'adopte assez rapidement. Et pourquoi pas ? Ça, c'est une très très belle idée
de scénario. Mais ça la rassure.
Mais ça la rassure. Ouais. Elle se dit, ça y est, j'ai trouvé ma place, je m'explique des choses que je ne m'expliquais pas. Mais sauf qu'en face de ça, comme s'il y avait subitement, il fallait ramener du tragique, entre guillemets, sur le syndrome autistique et pourquoi, on a la mère, interprétée par la géniale Mireille Perrier, qui était jusque-là complice et qui lui dit, non, mais elle pas du tout, mais elle est complètement folle, mais je raccroche une fois, deux fois, trois fois. Bon, on a compris effectivement que la mère voulait pas céder. Et on se demande vraiment pourquoi il n'y a pas de complicité avec la mère. Enfin, on entretient toujours une espèce de petit effet d'avancée et de surprise à l'intérieur du scénario, alors qu'on a toutes les clés depuis le début et qu'elle refuse d'aller là où ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire l'ambiguïté, l'opacité rassurante et rassurée du personnage. Mais elle y va pas. Il n'y a pas de mise en scène. C'est tragique à dire. Pardon, je suis désolé, Lola Doyon, mais c'est fade, c'est plat, c'est des cadres effectivement narratifs, mais jamais scrutateurs.
Ava.
Oh là là. Ben non, mais malheureusement, je rejoins mes camarades. Non, c'est vrai que je crois qu'on voit les bonnes intentions, mais je crois qu'on ne fait pas forcément un bon film avec des bonnes intentions. Et hormis le personnage de Katia, oui, qui est intéressant, mais le traitement ne l'est pas. Je trouve que tous les personnages autour d'elle sont très caricaturaux. Enfin, voilà. Alors, on parlait du petit copain. Moi, j'ai du mal, voilà, avec ce petit copain qui n'est jamais en empathie, en fait, avec sa compagne et qui la préférait différente. Plutôt qu'autiste, hein, voilà, dès que le mot est posé, dès que le diagnostic est posé, tout d'un coup, son regard change sur elle. Le personnage de la mère aussi, qui rejette en bloc l'autisme de sa fille. Donc, je doute pas de la véracité de certaines situations ou de certains traits de caractère, mais c'est vrai que tu le disais, Xavier, c'est un film ultra scolaire, tout est très schématique, la copie est trop propre, et on parle quand même de rapport ultra complexe, hein, du rapport ultra complexe que Katia entretient avec elle-même, mais aussi avec les autres, avec le monde, et on ressent jamais cet état de complexité. Donc voilà, moi, ça m'a fait un petit peu penser, cette structuration par la péripétie, à un soap, quoi, ou à un téléfilm, d'une certaine manière.
Une intervention pour ce film différente de Lola Doyon, non plus. Alors, c'est maintenant l'heure de vos coups de cœur.
Jean-Marc, tu as choisi un premier film.
Ouais, un premier long métrage d'une jeune femme qui était actrice, qui s'appelle Valentine Kadic. Ça s'appelle Le Rendez-vous de l'été.
Ouais.
Et ça raconte quelques jours dans la vie d'une jeune pianiste normande qui vient à Paris pour voir une compétition au JO de natation, qui va retrouver sa demi-sœur et qui va vivre son séjour est disons so-so, quoi. Et cette manière de montrer le spleen estival, ça m'a rappelé un film qui est un de mes films préférés au monde, qui est Le Rayon Vert d'Éric Rohmer. Il y a vraiment une façon de filmer à la fois la beauté du surgissement de quelque chose d'inattendu, de petits moments comme ça, d'étincelles de magie dans l'imprévu, et une espèce de cafard terrible qui peut tout à coup vous engouffrer en plein été dans la torpeur estivale. Le film est vraiment très très beau.
Le Rendez-vous de l'été de Valentine Kadic. Ava.
Eh bien moi, c'est un documentaire que je vous recommande, qui est actuellement en salle. Ça s'appelle Sauf qui peut, c'est réalisé par Alex Poukin. Alors, Sauf qui peut, c'est un documentaire qui se passe dans le monde hospitalier et qui explore la question de l'empathie ou l'apprentissage de l'empathie, puisqu'il y a un grand jeu de rôle, en fait, qui est organisé où des apprentis soignants s'exercent à dire l'impossible, à dire le pire à des faux patients. Donc voilà, c'est vertigineux sur l'état de l'hôpital et sur l'état empathique à l'hôpital. C'est édifiant et c'est bouleversant. Sauf qui peut, d'Alex Poukin.
Quant à moi, j'aimerais vous parler d'une revue symbole de la cinéphilie française, revue connue dans le monde entier, même par ceux qui n'en ont jamais lu une seule ligne. Je veux parler des Cahiers du cinéma, dont tous les numéros sont désormais accessibles en ligne. Tous les numéros, ça veut dire 820 éditions depuis la création de la revue en 1951 par André Bazin jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut surtout dire entrer dans un mythe au présent pour pouvoir consulter finalement des articles que j'ai envie de qualifier comme étant des tubes. Je pense évidemment à celui de Truffaut intitulé « Une certaine tendance du cinéma français » que j'ai consulté, c'était dans le numéro 31. Et donc plonger dans ces archives, c'est se remettre sous l'œil des numéros qu'on a parfois eus, qu'on a paumés au fil des déménagements, avec lesquels on a découvert, pour ma part, Montero, Kiarostami. Il y avait ce numéro aussi avec Isabelle Huppert en couverture et comme rédactrice en chef, qui l'a consacrée actrice et autrice. Et donc, l'accès à ces archives et aux cahiers d'aujourd'hui coûte 95 €, c'est vrai, c'est une somme. Et c'est 95 € pour 70 ans de cinéma, donc on va imaginer que peut-être ce serait Noël en juin. Xavier.
Moi, je vais vous parler d'un film absolument magnifique. Je vais en profiter pour citer Anne Sylvestre, parce que je trouve qu'on ne la cite jamais trop.
Tu as raison.
Les Impedimenta, c'est une chanson d'Anne Sylvestre en 1994, où elle dressait la liste de ses amants et de quelques amantes, disait-elle au passage, se disant que voilà, il y a un moment où il faut faire le bilan et se rappeler qui on a aimé, qui on a, avec qui on a couché. Ben, c'est exactement ce que fait Chloé Barreau dans le très beau fragment d'un parcours amoureux. Elle se souvient, effectivement, entre la France et l'Italie, de celles et ceux, ou de ceux et celles avec qui elle a couché, parfois des anonymes, parfois des gays qui le sont restés mais qui l'ont aimé aussi. C'est vraiment le parcours des amours pluriels tels qu'on a envie de les chanter aujourd'hui, peut-être encore plus encore en ce mois de la fierté, par exemple. Et puis, parmi les ailes, il y en a deux magnifiques, Anna Mouglalis, quand même, et Rebecca Zlotowski, qui n'ont pas tout à fait gardé le même souvenir. Il y a un sens du montage absolument, mais parfait, qui effectivement fait éclore toute la beauté de ces amours passés, mais un peu comme dans Life of Chuck, elles sont encore entre nos deux oreilles, dans notre voûte céleste.
Fragment d'un parcours amoureux de Chloé Barreau. Florence.
Moi, je voudrais vous inviter à aller sur le site d'Arte pour voir des courts-métrages d'animation du Festival d'Annecy, qui vient d'avoir lieu, et notamment un très beau court-métrage ukrainien qui s'appelle Je suis morte à Irpin et qui a été réalisé par Anastasia Falileyeva, qui raconte le début de l'invasion de l'Ukraine quand elle a fui Kiev avec son compagnon et qu'elle s'est retrouvée à Irpin dans une ville assiégée. Et moi, enfin, personnellement, c'est un des témoignages sur la guerre en Ukraine les plus forts que j'ai vus. Ce film a eu aussi le prix du meilleur film d'animation à Clermont-Ferrand. Donc c'est un film qui a été très apprécié dans les festivals, mais on ne voit jamais assez les courts-métrages d'animation. Donc allez sur le site d'Arte.
Florence Colombani, Xavier Le Herpeur, Ava Kahn, Jean-Marc Lalanne, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. La semaine prochaine, rendez-vous à nouveau en studio, mais ce sera la dernière fois, promis, pour une émission dédiée à l'actualité littéraire. Giraud a réalisé cet épisode du Masque avec Raphaël Rousseau et Sofiane Aktib. Aujourd'hui, Ilinka Negulesco co-programme l'émission, préparée avec l'aide de Nina Malray. Mab et moi vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur France Inter, évidemment. Après le flash, place à la musique sur France Inter ce soir. Mathieu Conquet vous attend pour le concert de Flavien Berger au Bataclan.
Cher papy, chère mamie, demain avec ma classe verte, on doit aller voir les oiseaux dans la forêt. Enfin, on ne sait pas s'il y aura encore une forêt.
Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. Savez-vous que votre épargne peut permettre aux jeunes générations de grandir sur une planète vivante ? Comment ? En désignant le WWF comme bénéficiaire de votre assurance vie.
Demandez votre brochure d'information au 01 73 60 40 40 ou sur www.fr/assurance-vie.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Calman-Lévy.
Découvrez Animal, l'expérience